La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Eh bien, encore une fois, bonjour et bienvenue. Le texte de base de cette présentation, nous le connaissons, il est le même que celui du committing. Il se trouve en Apocalypse 18, et les deux premiers versets, où il nous est dit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire, et il cria avec force et à grande voix, et dit « elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. » D'accord. Durant les présentations qui ont eu lieu depuis vendredi soir jusqu'à hier, nous avons considéré ce qu'était Babylone. Et nous avons vu les différents niveaux d'application concernant Babylone. Et nous devons comprendre que Dieu qualifie les organisations religieuses corrompues de Babylone, car il y a une similitude entre la Babylone littérale et la Babylone spirituelle. D'accord? Nous avons dit que Dieu fait cela car il y a une similitude entre la Babylone littérale et la Babylone spirituelle. Et c'est en raison de cette similitude qu'en réalité, les organisations religieuses apostates sont Babylone. Parce que, elles ont des caractéristiques similaires. Et nous devons comprendre, mes amis, que l'enjeu à l'époque de la Babylone littérale, pour le peuple de Dieu, était l'adoration. D'accord? Et nous pouvons voir cela en Daniel 3, versets 6 et 18. En effet, nous connaissons tous l'épisode de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Daniel, il avait eu en vision une statue composée de différents métaux. Et Babylone n'était représentée que par la tête d'or. Mais après cela, lui, il voulait que son royaume dure éternellement. Donc, il a fait ériger une statue tout en or dans la plaine de Dura. Et on nous dit au verset 6 que le roi avait dit « Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera au même instant jeté dans la fournaise de feu ardente. » Donc, il y avait ici une peine de mort qui avait été promulguée, d'accord, concernant l'adoration. « Si vous n'adorez pas, vous serez mis à mort. » Et au verset 18, nous lisons que la réponse que Daniel a donnée à cela, d'accord. Il dit « Sinon, sache au roi, » alors pas Daniel, mais ses compagnons, ses trois compagnons tout du moins, « sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Donc, notez l'enjeu était l'adoration. Et qu'avec cette statue, il y avait des dieux qui étaient connectés. Je dirais, il y avait des dieux qui étaient liés au culte de cette statue. Et voyez-vous, l'enjeu est le même avec la Babylone spirituelle. L'enjeu est le même, c'est l'adoration. L'adoration. En effet, on nous parle de la Babylone spirituelle en des termes différents, et nous savons qu'il s'agit de la même puissance dont on nous parle en Apocalypse 13. Lisons les versets 2 à 4. Et là, on nous dit « Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette plaie mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration tout du moins, suivit la bête. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle. » Et le verset 15 nous dit, concernant l'autre bête, qui s'élève à partir du verset 11, « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Donc ici, nous avons là l'antitype de ce qui s'est passé en Daniel 3, d'accord? Donc l'enjeu ici est l'adoration, d'accord? Et nous avons vu, durant les présentations précédentes, eh bien, qu'il s'agit ici de la papauté et que cela est lié, en fait. Cette même puissance est décrite comme étant Babylone en Apocalypse 17, la mère des prostituées. Mes amis, Jean nous dit que, eh bien, le dragon donna sa force et son trône, et ainsi que grand pouvoir à cette bête, d'accord? Et que, au verset 3 et au verset 4, on nous fait comprendre que les habitants de la terre, lorsqu'ils sont en admiration et qu'ils suivent la bête, eh bien, en fait, ils adorent Satan qui a donné son pouvoir à la bête. Vous avez compris cela? En suivant la bête, qui est-ce que les habitants de la terre suivent et adorent? En définitive, le père du mensonge, Satan, c'est cela. Car le dragon, en Apocalypse 12, verset 9, on nous dit que c'est Satan. Alors bien évidemment, nous savons qu'il s'agit aussi de l'Empire romain qui est représenté par le dragon. Mais justement, ça montre bien que c'est aussi Satan qui était derrière l'Empire romain et que l'Empire romain avait donné sa force, son trône et son pouvoir à la papauté. Mais c'est Satan, en définitive, qui est derrière ça. Donc, nous devons comprendre que Satan emploiera la tromperie pour se faire adorer. Satan va employer la tromperie pour se faire adorer. Et voyez-vous, la puissance que Satan va employer pour se faire adorer sera un système ecclésial. Okay? Ce sera un système ecclésial car en Apocalypse 17, nous voyons qu'il se sert de cette femme, Babylone, la grande. D'accord? Et il est intéressant de noter que cette puissance est antichrétienne, mes amis. La papauté est antichrétienne. Elle est antichrist. Est-ce que nous comprenons bien cela? En 1 Jean 2, verset 22, on nous dit « Qui est menteur si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ ?» Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Notez que l'antichrist nie le Père et le Fils. D'accord? Ok? Donc, Satan va se servir de ce système ecclésial, de cette église, pour se faire adorer. Et alors que le monde entier est en train de s'unir avec la bête et son image, les 144 000 se trouvent en marge, d'accord? Ils sont en marge, ils sont un peuple séparé et ne se joignent pas à cette adoration. Et ce groupe nous est présenté comme adorant le vrai Dieu, car son nom est inscrit sur leur front, d'accord? Mais ceux qui sont trompés par Babylone, eh bien, qu'est-ce qui est inscrit sur leur front? Qu'est-ce qui sera inscrit sur leur front? Qu'est-ce qui est inscrit sur le front de la Babylone? Remarquons cela en Apocalypse 17, au verset 5. Remarquez. On nous dit, « Et sur son front était écrit un nom. » Un nom, hein? C'est quoi? Mystère. Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Mes amis, que dit Rome à propos de son Dieu? Parce que ici, lorsque la Bible nous présente ce qui est inscrit sur le front de cette église prophétique, eh bien, elle nous fait comprendre que le Dieu qu'il adore est un mystère. D'accord? Alors, maintenant, que dit Rome? Que dit Rome à propos de son Dieu? Remarquez la réponse. Dans l'ouvrage « Handbook for Today's Catholic » à la page 12, le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique. sur laquelle se fondent toutes les autres doctrines de l'Église. L'Église étudia ce mystère avec un soin particulier et, après 4 siècles de clarification, elle décida de définir la doctrine de la façon suivante. Dans l'unité de la divinité, il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, réellement distinctes les unes des autres. Ainsi, dans les termes du credo d'Athanase, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, et pourtant, il n'y a pas 3 dieux, mais 1 dieu. Remarquez que l'Église catholique déclare que le Dieu qu'elle adore est un mystère et que la Trinité est la doctrine centrale de sa foi, d'accord? Et que sur cela se fondent toutes les autres doctrines. Et remarquez une chose, et je vous demande de bien retenir cela car nous allons en faire allusion à la fin de la présentation. Elle dit qu'elle étudia ce mystère avec un soin particulier et après 4 siècles de clarification. Après 4 siècles de clarification. Retenez bien ça, 4 siècles, siècle au pluriel, 4 siècles, d'accord? Elle décida. Qu'est-ce qui décida ici? C'est elle qui décida de définir la doctrine de la façon suivante. OK? Donc, voilà le Dieu que l'Église catholique adore. Voilà le Dieu que Babylone adore, mes amis. OK? Et vous savez, Babylone, si vous vous en rappelez, signifie confusion. Babylone signifie confusion. Dieu qualifie cette église de confusion. Elle sème la confusion. Et la confusion, mes amis, est bien souvent le résultat du mélange erreur-vérité. Erreur-vérité. Oui, vous prenez un peu de vérité, un semblant de vérité, mais vous y faites un amalgame avec l'erreur et cela met la confusion. D'accord? Et c'est très dangereux car, voyez-vous, lorsqu'il y a un peu de vérité, eh bien, ça attire. C'est là pour attirer, mais une fois qu'on est arrivé, qu'on a mangé ça, eh bien, c'est la confusion dans notre esprit. C'est la confusion. Et lorsque l'on boit ce mélange, ce breuvage, eh bien, il en résulte de la confusion, il en résulte de l'ivresse. Et voyez-vous, ce qui met la confusion dans cette affaire, et nous allons le voir, c'est que Babylone, l'Église catholique romaine, eh bien, a pris des noms divins, des noms bibliques, et les a placés sur un concept qui, lui, n'est pas biblique. Et c'est ce que nous allons voir durant cette présentation, durant les instants qui vont suivre. Elle a pris des noms pour les placer sur un concept qui, lui, n'est pas biblique. Et c'est cela qui met la confusion. L'Église catholique nous dit que son mystère est la Trinité. Mais est-ce que la Bible nous parle réellement de la Trinité? D'où vient la Trinité? Est-ce que vous savez d'où est-ce que cela provient, mes amis? Considérons un instant la Babylone littérale. Et revenons-y, d'accord? Vous savez, la Bible nous parle de Nimrod, d'accord? Pasteur Alain Stump a eu l'occasion de nous parler de Nimrod, ok? Et Nimrod a eu pour femme, eh bien, sa mère, d'accord? Et c'est sa mère qui, avec lui, eh bien, qui ont établi un système de religieux en 3 parties, d'accord? Nimrod et sa mère ont établi un système religieux en 3 parties, ok? Lorsque Nimrod est mort, eh bien, sa mère est tombée enceinte, et Sémiramis, et ce qu'elle a avancé pour justifier le fait qu'elle soit tombée enceinte, elle a dit « Nimrod s'est incarné dans le soleil et par des rayons du soleil, eh bien, je suis devenue enceinte. » D'accord? Et du coup, c'était Tammuz en fait. Tammuz était le fils de Sémiramis qu'elle a soi-disant eu par un rayon de soleil. Et elle disait que c'était en fait Nimrod qui était ici, présent. D'accord? Voilà mes amis, comment ils ont la Trinité a commencé en fait. Voilà comment le système de religion en trois parties a été établi. Avec Nimrod, Semiramis, sa mère et sa femme, ils ont établi ce système de religion en trois parties. Et Satan était ici adoré. Et nous comprenons, vu cette confusion, pourquoi Dieu a décidé de confondre les langages. Dieu a décidé de confondre les langues. Mais puisque les langues ont été confondues, les noms de cette première trinité le furent également. Et oui, puisque cette trinité avait été introduite avant que l'épisode de la tour de Babel n'ait lieu. Donc, automatiquement, nous devons nous attendre à voir ce concept eh bien, présent en diverses langues. Et c'est le cas, mes amis. C'est le cas. Voici les différents noms des dieux de la Trinité. La Trinité de Babylone, donc nous l'avons dit, Nimrod, Tammuz, Semiramis. La Trinité de l'Égypte, Osiris, Horus, Isis ou Ra. La Trinité de la Grèce, Zeus, Apollo, Athéna. La Trinité de l'Inde, Brahma, Vishnu et Shiva. Et la Trinité de Rome, la Rome impériale, Jupiter, Mars et Vénus. Ainsi, vous retrouvez ce concept dans la Trinité dans différentes cultures, mes amis. Dans différentes cultures. Et ce, parce que lorsque Dieu a confondu les langages, eh bien, dans les langages qui ont été, eh bien, qui ont vu le jour après cet épisode, eh bien, ils sont partis avec ces concepts de la Trinité. C'est pour cela que dans ces cultures, vous avez des trinités. Mais chacun a des noms différents. Mais c'est le même concept, mes amis. Le même concept qui remonte à la Babylone antique. Le même concept, mais avec des noms différents. Et pour les Égyptiens, le soleil du matin, du midi et du soir, ok, représentait leurs trois dieux. D'accord ? Soleil du matin, du midi et du soir, cela représentait leurs trois dieux. Et d'où les trois anneaux en forme de triangle équilatéral, lesquels représentent ces trois soleils. D'accord ? Lorsqu'ils sont associés, le soleil du matin, du midi et du soir, lorsque vous les associez, eh bien, vous avez un triangle équilatéral qui vous est présenté. D'accord ? Et de plus, la particularité du triangle équilatéral, c'est que, vous vous en rappelez ? C'est que les trois côtés sont égaux. Et est-ce que vous connaissez la valeur de ces trois côtés ? 60 degrés. Un triangle équilatéral a chaque côté qui fait 60 degrés. 60 degrés. 6, 6, 6. Soit 666. Est-ce que nous avons cela dans la Bible ? Chapitre 13, tout à fait. Mes amis, le titre officiel de la papauté en latin, c'est Vicarius Filii Dei, d'accord ? Et vous savez, dans le latin, Vicarius Filii Dei qui signifie au passage vicaire du Fils de Dieu. Et la spécificité du latin, mes amis, c'est que, eh bien, chaque lettre possède une valeur numérale, d'accord ? Et de manière intéressante, la somme de toutes ces lettres, ok, nous amène à 666, ok ? Donc, nous comprenons pourquoi la religion catholique est présentée comme étant Babylone la Grande, car son adoration a le même fondement que la Babylone littérale. Et par cela, la Bible nous révèle qui est réellement derrière ce système. Maintenant, revenons à nos trois soleils qui forment un triangle et continuons à considérer un peu ce système d'adoration pour comprendre bien les choses. Voyez-vous, lorsque vous associez ces trois soleils, et nous avons là cinq graphiques, regardez en haut à droite, ok ? Nous repartons de ces trois soleils, soleil du matin, du midi et du soir, ok ? Lorsque vous regardez ensuite en bas, vous avez ici ce que l'on appelle le triquetra, d'accord? Le triquetra, c'est en fait la combinaison, ok, le croisement de commun des trois soleils en fait, ok. Et donc c'est un symbole qui se décline, comme vous le voyez à l'extrémité gauche en bas du graphique, ok. Et donc c'est à partir de ces trois soleils combinés que nous obtenons eh bien, ce symbole qu'on appelle le triquetra. Et est-ce que vous savez, en bas à gauche, est-ce que vous voyez ce qui a marqué? Est-ce que vous savez de quoi ce triquetra se compose? Alors, je vais vous aider. Regardez l'image. Le triquetra, mes amis, se compose de 3-6 superposés. 3-6 superposés. OK? 3-6 superposés. Et voyez-vous, cela est un symbole que l'on retrouve dans l'occultisme. OK? Dans l'occultisme. Là, vous avez ce qu'on appelle des calices pour de sorciers que vous pouvez trouver sur Internet ou même vous avez d'autres accoutrements que les sorciers, les gens qui font de l'occultisme se procurent. Et ce symbole se retrouve sur leurs objets de culte. D'accord? Donc, c'est un symbole satanique. C'est un symbole occulte. C'est un symbole occulte. D'accord? Et voyez-vous, en Nombre 33, verset 52, Dieu a dit quelque chose à son peuple. Vous chasserez de devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs figures. Vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous démolirez tous leurs hauts lieux. D'accord? Figure, image, hauts lieux. Le peuple de Dieu ne devait rien garder. Il ne devait rien garder, mais au contraire, détruire cela. OK? Donc, les choses sont claires. Nous ne devons rien avoir qui appartient de Babylone. En tant qu'image, notamment quand on sait que cela est employé dans les cultes idolâtres, d'accord? Et pourtant, ce symbole se retrouve dans le christianisme, d'accord? Pour, justifier la Trinité, d'accord? On vous dit que l'ensemble, la combinaison Père, Fils et Esprit, c'est ce qui vous donne Dieu. D'accord? OK? C'est ce qui vous donne Dieu. Et ils ont même mis cela sur des Bibles, d'accord? La New King James Version, d'accord? Ils ont mis ce symbole sur le triquetra sur la New King James Version, OK? Mes amis, cela est un symbole occulte. Cela est un symbole occulte. Cela est présent sur des Bibles, d'accord? Et même sur des vitraux d'église, d'accord? Les vitraux, dans des bâtiments. Si vous visitez certaines grosses cathédrales ou certains gros bâtiments, vous allez même le voir en guise de fenêtre ou de symbole dans les murs de certaines cathédrales, ok, certaines églises. Vous allez voir aussi les trois soleils, ok, sur les bancs, ok, dans le bois, gravés et troués dans le bois. Donc, vous voyez ce symbole qui est présent dans le christianisme. Et ici, mes amis, nous parlons de système. Nous ne parlons pas d'individu, d'accord? Nous devons bien saisir cela. Nous ne voulons pas attaquer les individus, mais nous parlons d'un système, car il y a malheureusement des individus qui sont dans ce système et qui, sans le savoir, participent à des cultes païens. En réalité, ok, il participe à des cultes païens. Et j'aimerais que nous considérions une partie du credo d'Athanase, d'accord? Il y a pas mal de points, mais j'aimerais que nous considérions quelques-uns de ces points. Et nous le trouvons dans l'ouvrage The Creed of Christendom, volume 2, pages 76 à 70. Et ce credo dit, entre autres, « Quiconque veut être sauvé doit avant tout avoir la foi catholique. » 2. S'il ne la garde pas entière et pure, il périra sans aucun doute pour l'éternité. 3. Voici la foi catholique. 2 points. Nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. 13. De même, Tout-Puissant est le Père, Tout-Puissant le Fils, Tout-Puissant l'Esprit-Saint. 14. Et cependant, ils ne sont pas trois Tout-Puissants, mais un Tout-Puissant. 17. Ainsi, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, l'Esprit est Seigneur. 18. Et cependant, ils ne sont pas trois Seigneurs, mais un Seigneur. 26. Mais les personnes sont toutes trois également éternelles et semblablement égales. 44. Telle est la foi catholique. Si quelqu'un n'y croit pas fidèlement et fermement, il ne pourra être sauvé. Donc, notez ici que voilà la foi catholique. Exactement. Vous savez, lorsque ce message qui dénonce la Trinité, ce message de restauration de la vérité sur Dieu, et a commencé à progresser dans le milieu francophone, il y avait, mes amis, des sites adventistes, pas mal de sites, qui affichaient ouvertement que la Trinité sous laquelle ils adoraient était basée sur le credo d'Athanase. Et quand ce message a commencé à progresser, ils ont tout doucement enlevé ces parties-là de leur site, en fait. D'accord? Mais nous allons apporter une preuve tout à l'heure, à la fin de cette présentation. Restez bien concentrés, connectés. Suivez bien, car nous allons tout à l'heure écouter quelqu'un de reconnu qui va nous le dire, d'accord? Qui va nous dire très clairement que la Trinité, ok, qui est adorée dans l'adventisme, est la même qui est adorée dans le catholicisme. Donc, voici le Dieu qui est adoré dans le système catholique, mes amis. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens sincères qui adhèrent à ce credo en pensant adorer Dieu, en pensant adorer le vrai Dieu. Mais cela est en fait une supercherie. Cela est en fait une supercherie de Satan, car ce concept de Trinité ne trouve pas son origine dans la Bible, mais à Babylone. Et notez comment Satan trompe les gens. Notez comment Satan trompe les gens. Il emploie le même concept, mais avec des noms différents. OK? Il y avait quoi? Il y avait Nimrod. OK? Thémiramis. Tammuz. En fait, différentes personnes, différents noms. Et on avait vu ce qu'était la Trinité de l'Empire romain, Jupiter, Mars, Vénus. Ça, c'est la Trinité de Rome, de la Rome impériale. Mais quelle est la Trinité de la Rome papale? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais mes amis, ce sont juste des noms. Ce sont juste des noms. C'est comme si vous savez, ici là, le pupitre, il a été mis en place par Luciano. OK? Il y a un objet. OK? Mais Luciano, demain, il peut enlever ça et puis mettre une autre couche dessus, une autre couche bleue. Et on pensera que c'est quelque chose de différent. Mais en fait, c'est juste une couverture, en fait. C'est juste une couverture. Lorsque vous enlevez la couverture, vous voyez l'objet. Eh bien, c'est pareil. Vous pouvez enlever Jupiter, Mars, Vénus, et mettre à la place Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est le même concept. C'est trois dieux qui ne forment qu'un. D'accord? Trois dieux qui ne forment qu'un. Un dieu en trois parties. Et voilà, voilà comment Satan introduit la confusion, mes amis. Voilà comment Satan introduit la confusion. Et voyez, nous avons là, sur cette image, à gauche, ok, représenté la Trinité. D'accord? Et remarquez, à gauche toujours, il y a trois soleils derrière leur tête. Trois soleils. Et à droite, vous avez la Trinité hindoue. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Trois soleils. Mes amis, ils ont des noms différents. C'est six noms différents, OK? Trois ici, trois là-bas. Mais c'est le même concept qui est en dessous. C'est le culte du soleil, mes amis. Soleil levant, soleil au zénith, soleil couchant. Les trois phases, Trinité, mes amis. le même concept est entré dans l'Église, mais avec des noms bibliques sacrés. Et c'est pour cela que nous devons savoir qui nous adorons, bien-aimés. Autrement, Satan nous trompera par son faux système d'adoration. Et l'adventisme aussi n'a pas été épargné. En effet, Woodrow Wilson et Jerry Moon et John W. Reeve, trois auteurs adventistes, trois ministres de l'Évangile adventiste, ils ont écrit un livre, The Trinity, c'est-à-dire la Trinité. D'accord? Et remarquez le symbole qu'ils ont mis sur leur livre. Remarquez le symbole, le triquetra. D'accord? Remarquez le symbole. Et l'objectif du livre, c'est de comprendre l'amour de Dieu, son plan du salut, et ainsi que les relations chrétiennes. D'accord? Donc, déjà, en regardant simplement la couverture du livre, avec cette présentation historique, on se rend compte qu'il y a un problème tout de suite. OK? C'est même pas la peine déjà de commencer à rentrer dans le livre. On se rend compte déjà rien que sous la couverture qu'il y a un problème. Mais nous allons rentrer dans le livre pour nous rendre compte qu'il y a vraiment un problème. OK? Et avant même de rentrer dans le livre, remarquez la chose suivante. Remarquez la tiare du pape Bénédicte. Regardez ça. Qu'est-ce qu'il y a sur sa tiare? Les trois soleils dans un triangle, et en fait, on a le triquetra. D'accord? Regardez, mes amis. Le pape porte sur sa tiare le symbole du dieu de sa religion, de son dieu. Et ce symbole-là se retrouve dans l'adventisme. D'accord? Donc, déjà, en remarquant cela, on se rend compte qu'il y a un problème. Il y a un problème. Mais assurons-nous qu'il y a vraiment un problème en entrant dans l'ouvrage. À la page 273, il est dit « L'unité en nature et en caractère des trois personnes de la divinité soulève la question très utile concernant la prière, la louange et l'adoration. Vers qui devrions-nous diriger nos requêtes et notre adoration lors de nos dévotions personnelles ainsi que lors de nos cultes publics ?» Qu'en est-il de la prière adressée directement au Saint-Esprit? Alors, on continue. Bien que dans l'Écriture, nous n'avons pas d'exemple clair à ce propos, ni de commandement direct demandant de prier l'Esprit, agir de la sorte, en principe, est quelque peu implicitement soutenu par la Bible. Il semble tout simplement logique que le peuple de Dieu puisse prier directement le Saint-Esprit et l'adorer. Mes amis, nous avons là un exemple de contradiction. Vous avez suivi la supercherie? On vous dit que la Bible ne donne pas d'exemple, pas de commandement, mais il semble implicitement que, un peu, ce soit logique de faire ça. Pas de commandement, pas d'exemple, mais on pense que c'est biblique. On pense que c'est biblique. Et cela est un livre adventiste, mes amis. Et les auteurs de cet ouvrage sont vivants. Ainsi, nous voyons que ce Dieu de la Trinité est réellement adoré dans le christianisme et même dans le peuple adventiste. Mes amis, nous devons adorer le Père et le Fils seuls. Et est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y a au minimum 7 textes dans la Bible qui nous disent que Dieu a tout créé par son Fils. Pointerait à la ligne. D'accord? Dieu a tout créé par son Fils. Et mes amis, lorsque nous adorons le Père et le Fils, eh bien, cette adoration est liée en fait. Et sera caractérisée dans le fait que nous allons observer, eh bien, le jour, OK, qui a été mis à part comme mémorial de la création, d'accord, le sabbat du septième jour. Mais lorsque il y a une contrefaçon, il y a un jour opposé qui contient un signe opposé, car nous savons que le sceau de Dieu se trouve dans le sabbat. Le sabbat est le commandement qui contient le sceau, d'accord, qui contient le sceau de Dieu. Et en Apocalypse 13, verset 16, on lit « Et qu'elle faisait que tout petit et grand, riche et pauvre, libres et esclaves, prennent une marque à la main droite ou au front. Donc, il y a la marque de la bête qui sera imposée. Et cette marque vient s'opposer au sceau de Dieu. Cette marque est un signe d'allégeance au Dieu qui est adoré. D'accord? Le sabbat est le signe d'allégeance au seul vrai Dieu, mais le sabbat du septième jour, mais le sabbat du premier jour, qui est en fait la marque de la bête, eh bien, est le signe d'allégeance au Dieu de Rome. Et rappelez-vous, mes amis, que c'est Satan. Rappelez-vous que c'est Satan qui se cache derrière tous les dieux païens, et la Trinité inclus. Et notez la chose suivante, de manière spécifique. Dans The Douay Catechism, à la page 125, à la question 1092, qu'est-ce que le dimanche, ou jour du soleil en général? Eh bien, Henri Tuberville répondit, « C'est un jour dédié par les apôtres, dit-il, en l'honneur de la très sainte Trinité, et en mémoire du fait que Christ, notre Seigneur, se releva d'entre les morts le dimanche. C'est donc pour cela qu'il est appelé le jour du soleil. Il est également appelé jour du soleil en raison de l'ancienne dénomination romaine Dies Solis, le jour du soleil, pour lequel il fut sanctifié. » D'après les autorités catholiques, le premier jour de la semaine, le jour du dimanche, il est dédié en l'honneur de quelle divinité? La Sainte Trinité. Il dit que c'est un jour dédié, soi-disant par les apôtres, en l'honneur de la très Sainte Trinité. Alors, rappelez-vous que là, il y a eu un mensonge, puisqu'ils avaient dit tout à l'heure qu'il aura fallu 4 siècles. Mais mes amis, les apôtres étaient avant ces 4 siècles. Donc, en fait, là, ils sont en train de... Ils jouent avec les choses. Donc, ils lisent un mensonge pour, en fait, essayer de faire croire que l'Église apostolique était d'accord avec eux. Mais non. Non. Ainsi, la sanctification du dimanche, mes amis, la sanctification du dimanche, le jour du soleil, est intimement liée à la Trinité, le Dieu soleil. Je reprends. La sanctification du dimanche, le jour du soleil, eh bien, cela est intimement lié à la Trinité qui est le Dieu du soleil. Et le nom moderne, mes amis, le nom moderne du Dieu soleil est la Trinité. Je reprends. Le nom moderne, et après tout ce que nous avons vu là en ce matin, le nom moderne du Dieu soleil, c'est la Trinité, mes amis. Et voyez-vous, à la fin des temps, le conflit final portera sur notre jour d'adoration. Mais bien plus qu'un jour, voyez-vous, cette adoration manifeste quel Dieu que vous adorerez. Car le jour que l'on sanctifie indique quel Dieu nous adorons. OK? Ainsi, l'adoration de la Trinité amène au dimanche, mais aussi à Satan. L'adoration de la Trinité amène au dimanche, mais aussi à Satan. Et notez le dogme de la Trinité. Et j'ai mis la source en bas, catholic.org. La Trinité est le terme employé pour désigner la doctrine centrale de la religion chrétienne. Oh! Notez ce qu'on avait vu tout à l'heure dans the Handbook for Today's Catholic. Il avait été dit que c'était la doctrine centrale de la foi catholique. Mais là, on nous dit que la doctrine centrale de la religion chrétienne. Wow! Wow! C'est plus catholique, hein? Là, c'est de la religion chrétienne. Ça veut dire qu'en fait, ils sont en train de dire qu'il n'y a pas de christianisme sans ça, en fait. OK? Ici, l'Église catholique ne dit pas que cet enseignement est la doctrine centrale de la religion catholique, mais de la religion chrétienne. Ainsi, le pape, mes amis, le pape souhaite que tous les chrétiens acceptent son Dieu. Acceptent son Dieu. Et rappelez-vous ce qu'il nous est dit en Daniel 7, verset 25. Qu'est-ce qu'il nous est dit là, Daniel 7, 25? Il espérera changer les temps et la loi. Il espérera changer les temps et la loi. Et mes amis, le texte dit il espérera. Il ne dit pas qu'il va changer. Parce qu'il ne peut pas, en fait, toucher à ça. Mais il espérera. Je vais vous montrer comment l'espérance du pape, eh bien, se concrétise, ou tout du moins, qu'est-ce qui lui donne de l'espoir? Le Conseil œcuménique des Églises. Le Conseil œcuménique des Églises est une communauté fraternelle d'Églises qui confesse le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et s'efforce de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et mes amis, vous ne pouvez pas rentrer dans l'œcuménisme. Vous ne pouvez pas pratiquer l'œcuménisme avec les autres religions qui le font si vous n'adhérez pas à ça. C'est pour cela que vous avez des messes œcuméniques, des échanges de chair qui se font. Et l'adventisme n'est pas épargné. Hein? Oh que non! Oh que non, mes amis! Oh que non! Ainsi, la Trinité est devenue la doctrine déterminante qui établit si vous êtes oui ou non une église chrétienne. La Trinité est la doctrine déterminante qui établit si oui ou non vous êtes une église chrétienne. Et rappelez-vous que le dernier conflit, mes amis, le conflit final, portera sur l'adoration. Et c'est pour cela que le premier ange nous demande de craindre Dieu et de lui donner gloire et d'adorer le Créateur. Craignez Dieu, donnez-lui gloire et adorez le Créateur. Je pense que vous connaissez Pasteur Carl Johnson. Ok. Rappelez-vous qu'au début de la présentation, je vous ai dit de retenir quelque chose. Je vous ai dit de retenir que les catholiques ont dit qu'il aura fallu 4 siècles de clarification. D'accord? Ok. 4 siècles de clarification. Alors, considérons le lien.
C'est le manifeste du Dieu de l'espérance. Eh bien oui, il nous aime tous. Oui, il ne sait pas compter. Déjà par rapport à sa nature, il nous met en difficulté. Je suis 3, mais je suis 1. Allez comprendre. Père, Fils et Saint-Esprit égale 1. Il a fallu des siècles et des conciles pour les chrétiens d'essayer de comprendre cette mathématique illogique. Des centaines d'années pour arriver à une définition qui n'est pas encore si claire. Et je m'étonne parfois dans nos milieux que des gens en parlent avec une certaine facilité, comme s'ils ont découvert le secret. Ils en font des séminaires sur ce concept de Trinité.
Je m'arrêterai ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fallu quoi? Il a dit il a fallu des siècles et des conciles pour les chrétiens d'arriver à comprendre cette mathématique illogique. Mes amis, attendez. Carl Johnson est un pasteur adventiste. Dites-moi, quel âge a l'église adventiste du 7e jour, la dénomination? 170 ans. Même pas 2 siècles. Hein? Même pas 2 siècles. Bon. Donc, quand il dit qu'il a fallu des siècles et des conciles, il ne fait surtout pas référence à l'église adventiste. OK. Alors, je vais être très précis. Le catholicisme, mes amis, je dis, on parle d'un système, hein, on ne parle pas des personnes. Le catholicisme, ce n'est pas du christianisme. Le catholicisme, c'est du paganisme déguisé en christianisme. Ok? Donc, quand il dit qu'il a fallu des siècles et des conciles pour les chrétiens pour arriver à comprendre cette mathématique illogique. Est-ce que vous voyez la déception? Est-ce que vous voyez la tromperie? Mais les gens attention. Je ne pense pas qu'il soit malhonnête. Je ne veux pas juger de ses sentiments, de ses intentions, de son cœur. Je ne suis pas là pour faire cela. Mais je dis juste, et nous avons juste visionné cette vidéo pour voir que lui, homme instruit, reconnu dans le milieu francophone, et que vous connaissez ici à La Réunion, lui-même vous dit que le Dieu qui a été adoré dans l'adventisme aujourd'hui, c'est le Dieu qui a pris naissance dans les conciles de Rome. Ellen White déclara dans « Prophètes et rois » Des multitudes ont une conception erronée de Dieu et de ses attributs, et elles servent ainsi un faux Dieu comme les adorateurs de Baal. Lorsque vous avez une conception erronée de Dieu et de ses attributs, mes amis, eh bien, vous servez un faux dieu tout comme le faisaient les serviteurs de Baal. Et voyez-vous, nous pourrions nous dire, oui, mais peut-être qu'il est sincère, ou peut-être qu'elle est sincère, ou peut-être que, en fait, c'est pas vraiment ça que Dieu va regarder. C'est pas ça, Dieu regarde au cœur, il regarde la sincérité, c'est ça qui est important pour lui. Et tous ceux qui sont sincères seront sauvés. On peut peut-être penser ça. Mais Ellen White dit dans Message choisi, volume 2, page 64, paragraphe 1, « Un mensonge reçu avec foi ne peut exercer une influence sanctifiante sur la vie ou le caractère. Aucune erreur n'est vraie. Le fait de la répéter ou de la croire ne la transformera pas en vérité. Jamais la sincérité ne pourra dispenser une âme de subir les conséquences d'avoir cru une erreur. Il n'y a pas de vraie religion sans sincérité. Mais un homme ne sera pas sauvé pour avoir accepté sincèrement une fausse religion. Si je suis une fausse route avec sincérité, ce n'est pas la bonne route que je suis, la seule qui aboutirait à ma destination. » On peut être sincère, et il faut être sincère, car il ne peut pas y avoir de vraie religion sans sincérité, comme elle le dit. Mais la sincérité à elle seule ne suffit pas, car je peux adorer sincèrement la Vierge Marie et penser qu'elle va me répondre. Mais en fait, si elle me répond, mes amis, c'est Satan qui me répond.
Oui, c'est
et je suis sincère. Mais non, ce n'est pas suffisant d'être sincère, mes amis. Il nous faut chercher la vérité. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans Babylone. Et qui ne sont même pas forcément dans les bâtiments de l'Église catholique, mais que Babylone est dans leur tête. Babylone est dans leur tête, mes amis. Et ils ont le Dieu de Babylone. Ils ont cette compréhension de Dieu. Ils ont cette compréhension de Dieu trinitaire qui, en fait, détruit l'idée et la place que le vrai Dieu et son Fils veulent avoir dans notre vie. Mes amis, en cette fin des temps, serons-nous semblables aux trois jeunes Hébreux qui n'ont pas fléchi le genou devant le Dieu de Babylone dans la plaine de Dura. Je prie afin que oui. Et pour cela, nous devons démasquer, mes amis. Pour ce faire, pour rester fidèles, nous devons démasquer les pièges de Satan afin de savoir ce qui ne vient pas de Dieu et ce qui vient de lui. Donc, maintenant, nous savons quel est le Dieu de Babylone. Et nous savons pourquoi ce Dieu qui est adoré dans la Babylone spirituelle est un faux Dieu. Et nous savons que c'est un Dieu qui a pris naissance eh bien, dans la Babylone, dans l'ancienne Babylone. D'accord? Et que cela est de l'idolâtrie, du paganisme sous couvert de christianisme. D'accord? Nous avons nos Bibles. Nous avons les témoignages. À la loi et aux témoignages. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Puisse Dieu nous bénir. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.